57. Élise. Pourquoi tu fais ça? Bercer les bébés, je veux dire. Jean-Louis me pose la question au terme de 4 nouvelles heures avec Noah. Il m'a raccompagnée à la voiture. Nous avons discuté tout au long du trajet, mais je ne m'attendais pas à aborder un sujet aussi personnel. Pourtant, comme si sa franchise appelait la mienne, c'est la vérité qui s'impose. La première raison, c'est eux. Expulsés de leur cocon tiède et obscur dans la lumière crue et le froid, privés des bras de leurs parents, branchés, reliés à des machines qui hurlent. Je donne juste un peu de temps. Ils le convertissent en chaleur, en affection, en apaisement. Quelques heures transformées en chance de bien grandir. C'est une bonne alchimie. La seconde raison, c'est moi. En devenant câlineuse, je n'imaginais pas pénétrer dans une relation à double sens. Il y a la satisfaction d'aider, bien sûr, de faire le bien, mais pas uniquement. Ce que je ressens lorsque Noah est contre moi est de l'ordre du magique. À chaque inspiration, il m'allège. À chaque expiration, il me console. Il est le pont entre mon hier et mon demain. Il adoucit les adieux à celle que je ne serai plus. En aidant l'autre, c'est aussi moi que je sauve. Jean-Louis pince ses lèvres. C'est égoïste comme démarche, finalement. Sa remarque me vexe. Je suis en train de remettre mon armure quand il ajoute. J'ai fait le même constat. Je le fais pour eux, mais aussi pour moi. Je ne voulais pas d'enfant. J'ai eu un père qui n'en avait que le nom. On n'était pas ses gosses, mais ses punching balls. Mon frère aîné est devenu comme lui. J'ai eu peur de suivre le même chemin. Jusqu'à 30 ans, j'ai réussi à ne pas construire de vraies relations de couple. Mais j'ai fini par tomber amoureux. Il fouille sa poche, en extirpe un paquet de cigarettes et en allume une. J'ignorais qu'il fumait. Mylène voulait absolument un bébé, reprend-il. Je sentais bien que c'était vital. Quand elle est tombée enceinte, j'ai cru que j'allais pouvoir assurer, mais la peur a pris le dessus. Plus son ventre grossissait, plus je passais du temps au boulot. Je n'étais pas là quand mon fils est né. Et ça ne s'est pas arrangé par la suite. J'ai tout loupé. Ses premières dents, ses premiers pas, ses premiers mots. Il avait 7 ans quand elle m'a quitté. C'est le plus grand service qu'elle nous ait rendu. J'ai demandé une garde alternée, comme ça je n'avais plus le choix. J'étais obligée de passer du temps avec lui, et c'était vraiment bien. Mais tout ce que j'avais manqué, c'était perdu. Je crois que quelque part, je me rattrape avec d'autres. Mon armure se fracasse au sol. Je cherche les mots, ils ne viennent pas. Alors, je balbutie une banalité. La générosité est toujours un peu égoïste. Il sourit.
C'est très con ce que tu viens de dire.
J'éclate de rire.
T'es toujours aussi directe ?
Non. Par exemple, ça fait 1 heure que je vois le bout de salade entre tes dents et je ne t'ai rien dit. Je sens mes joues virer au rouge. Instinctivement, je ferme la bouche et cherche le coupable avec ma langue. Il me faut plusieurs secondes pour percevoir l'amusement dans son regard.
« Tu te fous de moi ?»«
Affirmatif », réplique-t-il fièrement. Sur le trajet du retour, je pense au petit Noah. Son odeur est encore sur moi. Il n'avait pas le masque ce soir. Il ne devrait plus en avoir besoin. J'espère que bientôt ses parents pourront le câliner tous les jours. Je n'ai aucune idée de ce qu'il attend. Je ne connais pas ses parents. J'ignore s'il recevra l'amour nécessaire pour bien grandir. Je ne sais pas quel petit garçon il sera, quel homme il deviendra. Nous sommes tous les mêmes sur la ligne de départ. C'est en route que nous différons. Les uns seront chaussés de souliers confortables, les autres seront ralentis par un sac à dos déjà trop lourd. Les uns auront un vent de bienveillance dans le dos, les autres seront pris dans des bourrasques de violence. Les uns sont nés sous une bonne étoile, les autres sont nés tout court. 58. Lily. Ton papa a demandé à ses parents de quitter immédiatement notre maison. Ils ont essayé de discuter, il leur a tenu tête, la voix solide. 1 heure plus tard, ils étaient partis. La nuit a été peuplée de rêves. Dans l'un d'entre eux, tu étais mariée à un homme à tête de facochère. Vous viviez dans un bloc opératoire et je m'installais chez vous pour réorganiser les placards malgré ma queue de sirène. J'ignore quelle belle-mère je serai. J'ignore même quelle mère je serai. Je vais tenter de te laisser pousser sans entrave, de te laisser façonner ton caractère sans chercher à t'imposer mes points de vue. de t'autoriser à être une personne et pas un prolongement de moi. Je vais tâcher de ne pas chercher à te manipuler, te dénaturer, de respecter ton libre arbitre. Je vais essayer de ne pas dévaliser tes pensées, de te laisser te frotter à la vie sans t'entourer de papier bulle. Je ferai tout pour ne jamais te culpabiliser. Je faillirai, sans aucun doute. Il se peut que je sois intrusive, anxieuse, agacée, agaçante, oppressive, oppressante, pas assez, trop. Mais il y a une chose que je te promets. Je ferai de mon mieux. Ce midi, la bonne humeur s'était invitée dans la salle des familles. Les résultats de l'IRM de Milo étaient encourageants. Les lésions cérébrales sont subtiles et même si le pronostic est impossible, il est permis d'envisager un déficit cognitif ou comportemental modéré, voire léger. Après plusieurs nuits difficiles, Clément avait dormi paisiblement. Tu t'étais nourri à mon sein. Pendant de longues minutes, tu avais aspiré de toutes tes forces, tes petites mains accrochées à ma peau. Tu avais réussi à téter, déglutir et respirer en même temps. Florence avait été émue. Elle assiste à ce genre de progrès quotidiennement, pourtant c'est toujours une première fois. Je crois que c'est ce qui me touche le plus en elle. Il faut compléter ton repas grâce à la sonde gastrique et la faim ne te réveille pas encore, mais je sais que c'est imminent. Tu n'es pas née avec toutes les options, mais tu les gagnes une à une. Je suis tellement fière de toi. La plus belle nouvelle était pour la maman des triplés. Plus qu'une nuit et Inès et Lina pourront rentrer chez elles. Sohan ne devrait pas tarder à les suivre. On a décidé de fêter toutes ces bonnes nouvelles. On s'est donné rendez-vous à 21h dans la salle des familles. La maman des triplés a passé l'après-midi à préparer un tagine si délicieux que j'ai cru ne jamais pouvoir m'arrêter de manger. Son mari nous a rejoints. Habituellement, il n'est présent que le week-end. Ils vivent à plus d'une heure d'ici. Elle est logée chez sa tante, mais lui ne peut pas s'absenter en semaine. Depuis qu'ils ont appris la naissance imminente de 3 bébés, ils cumulent 2 emplois. La maman de Milo a été autorisée à quitter son bâtiment pour rejoindre le nôtre. Elle arrive sur ses 2 pieds, au bras de son mari radieux. Ton papa a apporté des boissons et des biscuits. La maman de Clément n'est pas accompagnée, et ce n'est pas prêt de changer. Depuis la naissance de son fils, elle a organisé sa vie à la maternité. Elle dort dans la salle des familles, se douche dans une chambre libre du service suite de couches, avec la complicité des sages-femmes qui s'arrangent également pour lui réserver un plateau à chaque repas. Elle ne rentre chez elle que quand elle a besoin de nouveaux vêtements. Comme ce matin. Elle a trouvé l'appartement anormalement bien rangé. L'amoncellement de chaussures dans l'entrée avait disparu, ainsi que le tas de livres sur le buffet. C'est en ouvrant l'armoire qu'elle a compris. Il est parti. Dans un mot d'une dizaine de lignes laissé sur la table du salon, il a tenté de se justifier. Il n'arriverait pas à lui pardonner. Il ne pourrait supporter un enfant handicapé. Il ne le reconnaîtrait pas. Elle affirme en être soulagée, que son fils pourra se passer d'un père lâche, mais son regard crie le contraire. Pendant quelques heures, les murs de la néonate s'évanouissent. On est un groupe d'amis réunis autour d'un bon repas. Les rires fusent, les confidences jaillissent, on apprend à se connaître tout en ayant le sentiment que c'est le cas depuis toujours. La maman des triplés ne cesse de nous enlacer. Elle a le bonheur tactile. La maman de Clément ne semble pas y tenir. Elle se raidit à chaque contact, espérant sans doute décourager son assaillante, mais provoquant l'effet inverse. Dès qu'une assiette est vide, elle s'empresse de la regarnir. Quand elle dégaine les 3 plateaux de gâteaux, on a un fou rire. Manifestement trop bruyant, une femme vêtue de bleu de la tête aux pieds ouvre la porte à la volée. Sans sa blouse, il me faut quelques secondes pour reconnaître l'interne désagréable. « Vous vous croyez où ?» Tout le monde se tait. « Pardon, on n'a pas fait attention. » souffle la maman de Clément. « Ce n'est pas suffisant. Il y a des bébés qui dorment au cas où vous l'auriez oublié. » Je tente d'argumenter. « On est désolé, on pensait qu'au bout du couloir, ça ne s'entendrait pas. » « Eh bien, vous vous êtes trompé. Vous êtes dans un hôpital, pas dans un bar. Il est temps de rentrer chez vous. » Florence arrive à la rescousse. Explique que nous avions de bonnes nouvelles à fêter, que nous avons demandé l'autorisation. Le visage de l'interne prend la couleur de ses vêtements. Ce n'est pas un lieu de fête. Si vous aviez daigné m'en parler, je n'aurais pas donné mon accord. Merci de tout ranger avant de partir. On ne la ramène pas. J'ai l'impression d'être une petite fille prise en faute. On commence à débarrasser la table, sous son regard impassible. La maman des triplés est restée étonnamment silencieuse. Quand elle finit par intervenir, je comprends qu'elle préparait sa réplique.
Eh ben, je la croyais plus sympa, la Schtroumpfette.
Il y a un moment de flottement, puis des tentatives désespérées de demeurer sérieux, mais c'est toujours quand elle doit se cacher que l'hilarité est la plus forte. Le fou rire est intense, interminable, tellement bon. J'en ai mal au ventre. Même Florence peine à se contenir. La Schtroumpfette part en nous laissant 10 minutes pour vider les lieux. La maman des triplés s'autorise à étreindre Florence. Je m'éloigne pour laver les assiettes, observant la scène, et ma gorge se noue. Maman des triplés, maman de Clément, papa de Milo. Je prends conscience que notre situation commune a agi comme un accélérateur. On se comprend, on parle le même langage, on partage l'une des périodes les plus fortes de notre existence. On s'est rencontrés au zénith de la vulnérabilité. On est à poil, les attitudes, les convenances, les camouflages sont restés au seuil de la néonate. On s'est connus sous notre plus mauvais jour, nos fragilités se sont emboîtées. La fin du séjour approche, et j'aurais ricané si on me l'avait prédit, mais ils vont me manquer.